Bonjour Jean-Gilbert, bonjour Rosanie, que Dieu vous bénisse. Bonjour Rachel, bonjour aux sœurs qui se connectent avec toi. Mona, Chantal, Ocilia. Bonjour à Jacinta, que Dieu vous bénisse. Alors, j'espère que vous allez tous très bien en ce jeudi 12 août 2021, bientôt la mi-août déjà. Alors, petite journée bien chaude encore aujourd'hui. Ce matin, déjà à 5 heures, il faisait 27 degrés. Donc, ça va être chaud et humide aujourd'hui encore. Courage à ceux qui ne sont pas friands de la chaleur. Bonjour Mereste, Dieu te bénisse. Bonjour à Suze et à la petite famille. Je crois que c'est ta dernière semaine de congé, non Mereste? Et après ça, c'est retour au boulot. Bonjour Immacula. Que Dieu vous bénisse. Alors prenez le temps de vous saluer, de prendre des nouvelles les uns des autres. Je n'ai toujours pas vérifié si c'était l'anniversaire de quelqu'un ces jours-ci. Donc on est peut-être en train de passer à côté de certains beaux événements. Je vais peut-être faire juste une recherche devant vos propres yeux. Ces jours-ci, que je remonte un peu. Car si vous voyez que c'est l'anniversaire de quelqu'un qui nous suit régulièrement, assurément, vous m'en faites part. Comme ça, on peut saluer adéquatement la personne. Bonjour Jane. Bonjour à Sydney, si elle est près de toi. Bonjour à Jocelyne et à Jacques. Alors, on est jeudi. Vous vous rappelez que les inscriptions pour le culte de dimanche terminent demain midi. Donc, on vous invite à vous inscrire encore si vous voulez assister à l'assemblée en présentiel. Pour ce faire, vous nous écrivez à l'adresse courriel de l'Église, secrétariat EAJC, pas d'accent en un seul mot, secrétariat EAJC, à commercial@gmail.com. Sinon, vous appelez au secrétariat de l'Église et puis vous nous laissez votre message 514-273-8295. 514-273-8295 pour assister en présentiel à notre assemblée, à notre réunion de dimanche. Bonjour à mon père, à ma mère, à ma sœur. Que Dieu vous bénisse. J'espère qu'il ne fait pas trop chaud chez vous. La clim a fonctionné toute la nuit chez nous. Je l'ai gardé malgré le bruit que je n'aime pas et qui se trouve à l'autre bout de la maison, mais je l'ai. Ça m'embête en général, mais j'ai laissé la clim m'allumer toute la nuit. Et ce matin, il faisait encore 27 degrés à l'extérieur à 5 heures. Donc, bonjour à Jean Rosario. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue parmi nous. Bonjour à la belle-mère. Que Dieu vous bénisse. Je sais que Jean-Gilbert et Ozanie sont là. Hier, j'ai eu l'occasion d'aviser la belle-mère. Mais Jean et Ozanie, faites attention sur tout Roxboro et une partie de l'art des Ormeaux. Il faut faire bouillir l'eau depuis hier. Donc, juste peut-être vous renseigner si vous faites partie de de cette section-là, mais je crois que oui, si je me rappelle de la carte et si je me rappelle de là où vous habitez. Donc, juste sachez qu'il faut faire bouillir l'eau dans notre secteur, c'est depuis hier soir. Bonsoir Guy, que Dieu te bénisse. Bonsoir. Bonjour Guy, que Dieu te bénisse. La nuit a été longue ou courte, là. Pas beaucoup dormi, donc je déparle ce matin. Encore 5 minutes avant qu'on ne débute. Donc, vous pouvez vous prémunir de votre café, de votre thé, votre jus d'orange, votre verre d'eau si vous voulez. Vous avez même le droit de nous écouter en mangeant. Donc, si vous prenez deux œufs bacon, croissant ou autre, il n'y a pas de trouble. C'est très bien même. Donc, on vous rappelle, il y a eu l'étude biblique hier soir qu'on diffusait directement depuis l'église. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'était l'occasion d'approfondir l'enseignement du dimanche. On a revu les choses de dimanche et on a ajouté des choses à dimanche. Donc, on vous invite à regarder cet enseignement tout à l'heure après notre diffusion. Toujours sur la page Facebook de l'église. Vous pourrez consulter donc l'étude biblique d'hier soir. Bonjour aussi à ceux qui nous regardent depuis justement la page Internet de l'Église ou d'autres instruments, d'autres moteurs de recherche que vous pouvez utiliser selon le besoin. Donc, bienvenue parmi nous. On ne peut pas vous identifier. Votre nom n'apparaît que si vous êtes connecté à Facebook. Donc, pour tous les autres, on vous salue. Merci d'être là aussi. Et puis, on vous souhaite une bonne journée à vous aussi, bien entendu. Encore quelques minutes. Shalom, shalom, la belle-mère. Bonjour Denise, bonjour Gérard. Je suppose qu'il fait un peu plus frais dans votre coin qu'il ne le fait à Montréal. On doit dormir un peu mieux par chez vous. Bonjour mon poète, que Dieu te bénisse. Bonne journée à toi. Le poète, c'est le frère Jimmy, bien entendu. Oui, la clim aide. Le bruit est embêtant, du moins à la maison. Ici, ça ne me dérange pas, mais à la maison, pour dormir, la clim est embêtante, je trouve. Même si elle est à l'autre extrémité complète de la maison, mais j'aime pas le bruit durant la nuit. Mais je l'ai fait fonctionner toute la nuit. À l'église, par contre, je suis bien content qu'elle soit en fonction ce matin. Parce que dehors, c'est chaudement chaud ou humidement chaud. Bonjour Denise. Cette fois-ci, c'est Denise de Laval. Effectivement, mais elle démarre. Mon micro est quand même sensible pour entendre ce genre de son-là, donc. Je ne vous le montrerai pas parce qu'il y a une publicité dessus, mais j'ai un café glacé qui était glacé, mais toute la glace a fondu. Bonjour Babette, bonjour Andreas, que Dieu vous bénisse. Merci Denise, bon matin à vous aussi. Donc on va prier et on va commencer notre méditation pour aujourd'hui. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette autre journée qui débute. Oui, une chaude journée en prévision. Mais assurément, une journée dans laquelle il t'a plu de nous accorder une fois de plus le souffle de vie, afin, Seigneur, qu'on puisse te servir, te louer, et afin, Seigneur, qu'on puisse s'approcher de toi encore aujourd'hui. Ce matin, nous venons avec un cœur humble, avec un cœur qui demande une intervention de ta part. Étends ta main, Seigneur, et touche-nous. Permets-nous de saisir ta parole, permets-nous, Seigneur, de comprendre celle-ci, et permets-nous, Seigneur, de bâtir et de vivre, Seigneur, ancré sur cette parole. Ce matin, Seigneur, je demande que tu ouvres notre entendement, notre compréhension, que tu nous accordes, Seigneur, de voir, Seigneur, comment ta parole s'illustre dans nos vies respectives, dans le précis même de notre existence. Comment, Seigneur, tu interviens et comment cette parole si merveilleuse vient accomplir, Seigneur, des miracles, des prodiges, des transformations et des changements dans notre vie. Alors j'appelle ta bénédiction sur ma sœur, sur mon frère. J'appelle ta grâce sur chacun d'entre nous. Et je te demande, Seigneur, de nous permettre de façon palpable, tangible, de sentir ta présence nous environner et nous habiter. Et de nous permettre, Seigneur, d'entendre ta voix ce matin. Nous t'avons prié dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles ce matin dans Luc au chapitre 6. Et on va lire du verset 46 au verset 49 pour ceux qui prennent des notes. Donc, Luc 6, 46 à 49, ce même passage où cette même histoire se retrouve aussi dans Matthieu au chapitre 7. Et on voit cela du verset 15 au verset 27. Alors, ce matin, le terme important, roc ou rocher, la Bible comme un roc ou un rocher, en fait le seul et l'unique roc sur lequel nous pouvons bien construire ou adéquatement construire. Toute autre chose qui servirait de fondement dans notre vie serait friable, serait frivole, serait dangereux même, puisque pas assez solide pour y construire notre existence. Donc, pour ceux qui prennent des notes encore, le terme grec pour roc, le terme Petra, Petra, ou à l'occasion, on voit aussi le terme Petros, Petros. Il y a plusieurs passages dans les Écritures qui font ce lien entre la parole de Dieu et le rocher, qui donne comme symbole un rocher. Il y a d'autres passages où on fait strictement le lien entre Jésus et le fait qu'il soit un rocher. Ces versets qui nous disent qu'il est la pierre principale de l'angle. Ces versets qui nous disent que cette pierre a été mise en Sion, mais qu'elle a été rejetée. Donc des passages qui sont en parallèle entre l'Ancien et le Nouveau Testament, qui sont attribués ou dont l'image est attribuée à Jésus. Mais lorsqu'on parle de rocher, dans le sens de la parole de Dieu ou dans l'image de la parole de Dieu, les textes qui s'y rattachent le plus sont donc cette parole qu'on va lire ce matin dans Luc au chapitre 6 ou sinon dans Matthieu chapitre 7. Et on voit aussi partiellement cette image dans la confession de Pierre. Lorsque Pierre va dire à Jésus qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, et Jésus va répondre à Pierre, voilà, sur cette révélation ne vient pas de toi, mais elle vient de mon Père, et sur cette pierre, donc sur cette révélation, je bâtirai mon Église. Mais ce matin, on va aller dans un autre sens. Donc, je lis pour vous Luc chapitre 6, le verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé bien avant, et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bâtie, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui bâtit une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. Jésus nous donne l'illustration de deux hommes qui vont construire leur demeure respective. Ça, c'est un peu le déroulement de cette histoire. Le premier va creuser profondément. Et l'expression qui va être utilisée ici, il a creusé et creuser bien avant. Et ça a deux sens. Creuser bien avant veut dire, oui, qu'il a pris le temps de creuser et d'ouvrir la terre jusqu'à chercher le rocher ou la paroi rocheuse, et que c'est simplement une fois qu'il a atteint le roc qu'il s'est mis à construire. Bien avant veut dire aussi profondément. Ça veut dire que cet homme qui construit cette maison sur le roc va avoir pris le temps nécessaire et adéquat et va avoir fait l'effort nécessaire pour creuser et atteindre le roc. Ayant creusé jusqu'à atteindre le roc, il va alors poser le fondement sur sa maison et va ériger sa demeure. On nous parle par la suite du deuxième individu. Lui va aller tout simplement sur le sable, sur la terre, sans même creuser, et va se mettre tout de suite à ériger sa maison à même le sol ou à même le sable. Il ne creuse pas et ne pose pas de fondement. L'inondation va venir, la tempête va venir, le vent va venir. La Bible nous dit que le torrent va se jeter sur chacune des maisons. Et ça, c'est intéressant à savoir que c'est pas juste les gens du monde ou pas juste les chrétiens qui passent par des moments de tempête. Nous passons tous par des moments de tempête. Que la maison soit construite sur le roc ou que la maison soit construite sur le sable, nous passons tous éventuellement par des temps de tempête, par des temps de vent impétueux, par des temps de torrents qui viennent se fracasser contre la maison. La maison de celui qui a creusé jusqu'au roc va résister, alors que la Bible nous dit que la maison construite à même le sol est ébranlée, qu'elle va tomber, et qu'elle va même tomber en grande ruine. Deux maisons, avec deux constructions différentes, une sur le sable, une sur le roc. La tempête, même tempête pour les deux maisons, avec même force, avec même fracas, une des maisons va résister, l'autre va tomber. Relisons le verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? La leçon pour nous aujourd'hui, c'est ce que signifie vivre avec Jésus comme Seigneur. Jésus regarde les gens qui se sont approchés de lui et qui l'interpellent en disant « Seigneur, Seigneur », et il leur pose la question tout à fait logique. « Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais pourquoi ne faites-vous donc pas ce que je vous dis ?» Et la leçon pour nous, c'est donc de savoir si nous appelons le Seigneur par ce titre glorieux qu'est Seigneur. Pourquoi arrive-t-il très souvent qu'on n'applique pas la parole de Dieu ou qu'on ne fonctionne pas basé sur la parole de Dieu? Si nous appelons Jésus notre Seigneur, pourquoi ne nous posons-nous pas la question qu'on s'est posée dimanche et qu'on a reparlé, de laquelle on a reparlé hier soir? What would Jesus do? Que ferait Jésus à ma place? Pourquoi on ne s'interroge pas à savoir quelle est la parole de Dieu pour moi aujourd'hui dans ce que je vis, dans ce que j'expérimente? Jésus utilise le terme « Seigneur » en leur disant « Mais vous m'appelez Seigneur et vous ne faites pas ce que je vous enseigne. » Que signifie que Jésus soit mon Seigneur? Qu'est-ce que ça représente dans ma vie, le fait que Jésus soit Seigneur? Le terme « Seigneur », c'est le terme grec « Kyrios », K-Y-R-I-O-S. Je répète, « Seigneur », « Kyrios », K-Y-R-I-O-S, un terme qu'on a souvent utilisé, qu'on a souvent étudié même dans nos bénédictions matinales. « Kyrios », c'est quelqu'un à qui une chose ou une personne appartient. Quelqu'un à qui une chose, une personne, un groupe de personnes appartiennent. Quelqu'un qui a un pouvoir de décision sur une chose ou sur une personne. Un seigneur a le droit de vie, de mort sur ses sujets. Un seigneur a le droit d'utiliser à sa convenance un objet qui lui appartient. Un seigneur, Kyrios, c'est quelqu'un qui a le droit de disposer pleinement d'une chose. S'il voit une bouteille, il peut utiliser la bouteille en y mettant le liquide qu'il veut dedans, que ce soit du lait, du jus, du café, de l'eau, de l'essence, du bouillon de poulet. Il fait ce qu'il veut avec cette bouteille parce que cette bouteille lui appartient. Enfin, Kyrios, c'est aussi un titre d'honneur qui exprime du respect et de la révérence. C'était le terme que les serviteurs utilisaient pour saluer leur maître. On ne pouvait pas, si le maître s'appelait, je ne sais pas moi, on va trouver un nom qu'on ne voit pas souvent en français, le maître s'appelle Hercule. Ben, le serviteur n'interpellait pas son maître par son prénom en disant « Hercule, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Non, il interprétait son maître en s'adressant à lui, en utilisant le terme « Kyrios », « Seigneur », ce terme honorifique et ce terme de politesse qui était utilisé. Donc, qui dit « Seigneur » dit nécessairement qu'il y a des serviteurs. Qui dit Seigneur dit nécessairement qu'il y a des sujets. Si le Seigneur est le terme pour remplacer un mot comme roi ou monarque, mais qui dit monarque et roi dit qu'il y a des sujets. Qui dit qu'il y a Seigneur, il y a serviteur. Qui dit qu'il y a patron dit qu'il y a des employés. Qui dit qu'il y a maître dit nécessairement qu'il y a disciples, voire même esclaves. Donc lorsqu'on interpelle Jésus par son titre honorifique, qui est plus qu'honorifique parce que c'est un fait qu'il est maître et seigneur, ça veut dire qu'on se constitue, vous et moi, comme sujet de Jésus ou comme disciple de Jésus. La question à se poser est à savoir, est-ce que je vis vraiment comme quelqu'un qui a Jésus pour Seigneur et pour Maître? Et c'était là le dilemme que Jésus avait avec ces personnes qui l'appelaient Seigneur, Seigneur. Dans le sens où, si vous m'appelez Seigneur, ben comportez-vous comme des gens pour qui je suis Seigneur. Si vous me considérez comme votre Seigneur, ben à ce moment-là, agissez à mon égard, menez la vie qui est propre à celui qui a un Seigneur. Et je pense que la définition ou l'explication de la vie de quelqu'un qui a Jésus comme Seigneur se retrouve au verset 47. Jésus, au verset 46, va dire « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Et au verset 47, il continue « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. » Ça veut dire que dans la définition de Jésus, ses disciples, ceux qui avaient le droit de l'appeler Seigneur, ou ceux qui l'appelaient Seigneur de façon appropriée parce qu'ils menaient une vie avec Jésus comme Seigneur, ces gens-là, voici ce qu'ils devaient faire. Ils devaient venir à Jésus, entendre les paroles de Jésus et les mettre en pratique. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met en pratique. Trois termes. Venir, qui vient à moi. Venir. Le terme erchomai. E-R-C-H-O-M-A-I. Erchomai, venir. E-R-C-H-O-M-A-I. Qui veut dire se déplacer vers quelqu'un. Très souvent dans notre relation avec Jésus, on attend que lui vienne. On veut que lui vienne dans notre barque, on veut que lui vienne dans notre maison, on veut que lui vienne dans nos affaires, on veut que lui s'implique dans nos choses. Mais lorsqu'on parle d'un seigneur et d'un disciple, d'un seigneur et d'un serviteur, ce n'est pas le maître et le seigneur qui va vers ses disciples, mais c'est ses disciples qui s'approchent de lui. Et par conséquent, où la question qui vient conséquemment à cette affirmation-là est de savoir, est-ce que tu t'approches de Jésus? Est-ce que tu fais tout pour naviguer à proximité de Jésus? Voir, est-ce que tu fais tout pour venir à l'arrière de Jésus, pour marcher dans ses pas, pour marcher à sa suite? Lorsqu'on parlait d'un maître et d'un disciple, on disait que le disciple marchait à la suite de son maître. Ça veut dire qu'il suivait l'exemple de son maître, qu'il suivait le vécu de son maître et qu'il vivait une vie à proximité de son maître. Es-tu en train de vivre une vie en proximité de Jésus? Es-tu en train de vivre une vie où ton objectif quotidien est de te rapprocher à chaque jour un peu plus près de lui? Est-ce que c'est non seulement ton désir, ce qui est un désir pieux et un désir approprié, mais au-delà du désir, fais-tu ce qui est nécessaire pour t'approcher chaque jour davantage de Jésus? connaître la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu, se soumettre à la parole de Dieu est donc effectivement un moyen de s'approcher de notre Seigneur. Mais dire non seulement celui qui vient à moi, mais aussi celui qui entend mes paroles. Entendre ici, c'est le terme akouo, akouo, a-k-o-u-o, je répète, akouo, a-k-o-u-o, qui veut dire percevoir et considérer ce qui est dit. Vous voyez, parfois, il y a des gens qui parlent autour de nous et on entend la voix, mais on ne prête pas attention aux propos qui sont mentionnés. À l'occasion, vous allez être deux dans une même pièce. Ça nous arrive régulièrement à la maison. Daphné et moi, on va être dans une même pièce. Elle va écouter un vidéo, un reportage sur son ordinateur. Je vais être sur le mien. Les deux ordinateurs ont le volume qui est allumé. Les deux, on a quelqu'un qui parle sur l'ordinateur. Et après ça, on se regarde. Et elle me pose une question, à savoir ce que j'ai entendu, ce que son interlocuteur disait sur son ordinateur. Et non, parce que je n'y prêtais pas attention, et réciproquement. Donc, entendre, c'est plus que simplement percevoir un son. Akouo, c'est percevoir et considérer, donner une attention à ce qui est dit. La question pour toi et pour moi, par rapport à la parole de Dieu, est-ce que je prête attention à ce qui m'est dit? Est-ce que je prête attention à la parole de Dieu? Est-ce que je prête attention à la prédication que je reçois? Est-ce que je prête attention aux enseignements que je reçois? Est-ce que je prête attention aux lectures bibliques que je fais? Est-ce que je prête attention à Dieu qui me parle? Je ne peux pas être serviteur si je ne prête pas attention à sa parole. Mais ça va plus loin que ça encore. Ça va plus loin que de venir auprès de Jésus et de prêter attention à ses paroles. Un serviteur, un bon serviteur, va mettre en pratique les directives de son maître. Et voilà pourquoi Jésus va dire, je vais vous montrer ce que veut dire qu'un homme s'approche de moi, qu'il entende mes paroles et qu'il les mette en pratique. Mettre en pratique, c'est le terme poieo, poieo, P-O-I-E-O, je répète, poieo, mettre en pratique, P-O-I-E-O, qui veut dire exécuter une chose ou accomplir une chose. Vous savez, lorsque vous êtes un chef d'équipe, lorsqu'on vous met une autorité entre les mains, et que vous demandez à vos partenaires d'équipe de se positionner à tel ou tel endroit et d'exécuter telle ou telle tâche, vous savez que c'est frustrant lorsque vous donnez des directives et que ces directives ne sont pas prises en compte et de surcroît à cela qu'elles ne sont pas appliquées. Du type, vous dites à vos collègues, on va faire du gâteau et dans notre gâteau, il faut mettre une tasse de sucre. Il faut mettre 250 grammes de sucre. Et que les gens n'en mettent que la moitié. Ou que les gens disent, « Ah, mais je pense que c'est pas nécessaire de mettre le sucre. » La pâte lève, on la met au four, elle cuit, et lorsque on prend un morceau et qu'on se met à goûter le pain ou le gâteau qu'on a préparé, on se rend compte qu'il manque le sucre. Un ingrédient important. Et c'est frustrant d'avoir donné les indications et que ces indications aient été mises de côté et n'aient pas été appliquées. Pour que je sois un serviteur digne du terme, du nom de serviteur, pour que je sois un disciple de Jésus, non seulement faut-il que je m'approche de lui, que je vienne à lui, que j'entende ce qu'il me dise, mais encore davantage, faut-il que je mette en pratique sa parole. Et Jésus va dire, Voici l'exemple, l'image que je vous donne de celui qui vient à moi et de celui qui ne vient pas à moi, de celui qui entend ma parole et de celui qui n'entend pas ma parole, de celui qui vient, entend et met en pratique ma parole, de celui qui vient, entend, mais ne met pas en pratique ma parole. Il dit, c'est comme deux hommes qui vont construire leur maison. Un qui va creuser jusqu'à trouver le rocher et qui va construire, et l'autre qu'on dit qui n'est pas sage, qui est un fou constructeur, va tout simplement bâtir sur le sable. La tempête va arriver parce que nous sommes humains et que dans une vie, il y a des tempêtes. Mais un a bien construit sa maison et celle-ci a résisté. Et l'autre, l'insensé, a bâti sa maison d'une manière qui ne pouvait résister à la tempête. Lorsque Jésus va donner cette image, elle va avoir une connotation tout à fait logique aux yeux de son auditoire. À cette époque-là, on construisait nos propres maisons. Et on savait ce qu'était construire une maison solidement, tout comme construire une maison de façon très aléatoire. Et au même titre où il était absurde de bâtir une maison à même le sable sans un fondement basé sur le roc, pour les gens qui écoutaient Jésus, ils comprenaient que, aux yeux de Jésus, il était tout aussi absurde de ne pas bâtir sa vie sur la parole qu'il prononçait. Mon frère, ma sœur, mon ami, cette absurdité nous gagne à nous aussi très régulièrement. Lorsque nous ne bâtissons pas notre existence, lorsque nous ne fondons pas nos décisions, lorsque nous ne fondons pas notre façon de cheminer sur la parole de Dieu, en accord avec la parole de Dieu, en mettant en pratique les préceptes de la parole de Dieu, eh bien, on se met en danger. On ne pourra pas se plaindre au Seigneur après ça en disant « Ah, mais tu aurais pu nous éviter la tempête !» Oh, t'aurais pu nous éviter que ce sable soit du sable. T'aurais pu le transformer en rocher pour nous. Et c'est souvent l'attitude qu'on a. On s'est nous-mêmes mis dans une situation précaire. Mais au lieu d'en prendre la responsabilité pour nous-mêmes, on la rejette sur ceux qui nous entourent. On la rejette sur Dieu, qui n'a pas fait le miracle de transformer le sable en pied, en rocher. On la transfère sur Dieu, qui n'a pas fait l'acte de générosité et de bonté, de faire dévier la tempête. On le met sur nos parents, sur nos proches, sur notre environnement. C'est à cause d'eux que j'ai fait ceci ou j'ai fait cela. Mais à la base, nous avons tous accès à la parole sage et parfaite de Christ, parole sur laquelle nous pouvons, selon notre propre chef, selon notre propre décision, bâtir adéquatement ou la mépriser et bâtir ailleurs sur un terrain friable. Assurément, celui qui construit sa maison sur le sable va la construire beaucoup plus vite que celui qui doit creuser et creuser encore pour atteindre le roc. Assurément, celui qui bâtit sa maison sur le sable pourra entrer dans sa demeure avant celui qui ne bâtit sur le rocher. Mais on bâtit sur le rocher essentiellement parce qu'on est sage et parce qu'on comprend que la tempête peut arriver et que la tempête assurément arrivera à un moment donné. Et la question pour toi et pour moi aujourd'hui est à savoir est-ce que je bâtis effectivement sur cette parole? Est-ce que je peux effectivement affirmer que toutes les sphères de mon existence sont bâties sur la parole de Dieu? Je dis parfois aux jeunes gens qui arrivent en âge de fréquenter quelqu'un que le malheur dans ces histoires de fréquentation, c'est que très souvent, on embarque dans une relation et c'est simplement une fois qu'on est embarqué dans cette relation qu'on dit à Jésus, pourrais-tu venir dans notre barque? Pourrais-tu venir et bénir notre embarcation? Pourrais-tu venir et bénir ce que nous avons déjà décidé d'initier sans te demander si c'était ta volonté, si c'était ton temps, si c'était la personne appropriée? Très souvent, on s'embarque dans des aventures et c'est simplement lorsque la tempête arrive qu'on se tourne vers le Seigneur en disant, pourrais-tu venir à mon secours? Pourrais-tu venir bénir ce que j'ai démarré sans te demander à la base ton opinion? Mais ce faisant, à quoi confrontons-nous Jésus? On confronte Jésus à bénir quelque chose qu'il n'avait peut-être pas en pensée. On confronte Jésus avec le fait de bénir quelque chose qu'il n'avait peut-être pas comme dessein sage pour ta vie. En fait, ce qu'on dit au Seigneur, c'est que peu importe quelle est ton opinion, on te demande de venir dans notre barque et de bénir notre barque, même si c'est pas la bonne embarcation, même si c'est pas la bonne destination, même si c'est pas le bon équipage. Mais on te demande de faire fi de ce que tu voulais, faire fi de quels étaient tes plans pour moi, faire fi de ce que ta parole me dit qu'aurait dû être la procédure, et de venir à notre secours alors que c'est nous-mêmes qui se sommes mis dans le pétrin. C'est souvent ce que nous faisons. Au moment où les premières gouttes commencent à tomber, au moment où le vent commence à se lever, au moment où les vagues commencent à être tumultueuses, à ce moment-là, on se rappelle qu'on est supposé avoir un Seigneur, qu'on est supposé avoir un Maître, qu'on était supposé écouter et duquel on était supposé recevoir des directives. Mais entre le moment où on a démarré notre entreprise et le moment où nous crions à Dieu qu'il vienne à notre secours, on a fait fi de sa volonté tout au long de cette procédure. Voilà pourquoi il est important, quoi que nous fassions, quoi que nous démarrions aujourd'hui, que nous le fassions dans l'approbation de Christ. Et quelle meilleure façon pour être dans l'approbation du Seigneur que de venir après lui, que de marcher à sa suite, que d'écouter ses directives et que d'appliquer sa parole. Il y a un sage, il y a un insensé. Il y a une façon sage de construire notre vie, il y a une façon insensée de construire notre vie. Assurément, c'est insensé pour nous qui connaissons le Seigneur. Pour nous qui avons reconnu que sa parole est vérité, vérité parfaite et vérité absolue. Mais si effectivement tu es de ceux qui sont appelés serviteurs de Dieu, de ceux qui sont appelés enfants de Dieu, de ceux qui s'appellent disciples de Jésus, tu ne peux pas te targuer d'être son serviteur, son ouvrier, son enfant, son disciple, et de ne pas marcher près de lui, de ne pas chercher à entendre sa voix et de ne pas accomplir sa parfaite et merveilleuse volonté. Celui qui bâtit sur le roc, bâtit sur le seul et unique roc assez solide pour traverser toutes les tempêtes de cette vie. Si tu ne bâtis pas sur Jésus, tu bâtis sur le sable. Si tu ne bâtis pas sur le roc qu'est la parole de Dieu, tu bâtis sur le sable. La tempête va venir. Le vent va souffler. Les vagues vont mugir. La mer va frapper sur la maison. Il y en a une seule des deux qui va subsister. Celle dont le constructeur aura pris le temps de creuser, profondément et bâtir sur le roc. En étant venu auprès de Jésus, en ayant entendu les paroles de Jésus et en ayant mis en action ces mêmes paroles prononcées par Dieu. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. Permettez-moi de prier avec vous. Seigneur, merci encore une fois pour cette parole. Cette parole qui est le rocher de notre existence. En tout cas, cette parole qui devrait être le rocher de notre existence. Cette parole qui devrait être constamment en proximité de chacun d'entre nous. Cette parole sur laquelle nous devrions bâtir notre existence. Cette parole qui ne peut être entendue sans qu'on la mette en action. Cette parole qui a toute sa valeur simplement quand je viens près d'elle, quand je l'écoute et quand je la mets en pratique. Si je ne mets pas en pratique la parole qui sort de ta bouche, Seigneur, j'ai juste la connaissance de celle-ci, mais aucunement la mise en pratique de celle-ci et aucunement les bénéfices de celle-ci dans ma vie. La tempête peut venir, et si je n'ai pas bâti sur le rocher solide, la maison s'écroule. Je prie, Seigneur, pour ma construction. Je prie pour la construction de ma famille. Je prie pour la construction de notre Église. Que nous puissions venir à toi, marcher à ta suite, que nous puissions entendre ta voix, percevoir ta parole, la recevoir pour nous, et que nous puissions construire sur cette parole, afin que lorsque la tempête vient, nous résistions à celle-ci et que nous puissions continuer à nous élever devant toi et rester solides dans notre foi. Je prie pour ma sœur, je prie pour mon frère. Je demande, Seigneur, que l'ennemi ne puisse venir retrancher quoi que ce soit de la parole de ce matin. En fait, Seigneur, arrose-la par ton onction, afin que celle-ci, Seigneur, puisse vraiment s'enraciner profondément dans les cœurs de ma sœur et de mon frère. Puisses-tu, Seigneur, illustrer aussi, ou pointer du doigt, ou éclairer certaines parties de nos vies qui ne sont pas construites sur ta parole. Peut-être que c'est des entreprises qu'on a initiées. Peut-être que c'est un voyage dans notre vie qu'on débute et une destination qu'on recherche qui n'est pas dans ta volonté. Peut-être que c'est l'association avec une personne ou avec d'autres qui n'est pas initiée par toi. Peut-être, Seigneur, que c'est se mettre à construire quelque chose à laquelle tu ne nous as pas destinés. Je prie, Seigneur, que non seulement on puisse entendre ta voix, mais que nos cœurs, Seigneur, te soient soumis et dociles afin de recevoir pleinement de ta part. Je bénis ma sœur, je bénis mon frère. Parle-nous, instruis-nous. Et Seigneur, je ne peux prier que pour moi-même en ce sens-là, mais je prie, Seigneur, de répondre favorablement à ta parole et de construire sur le rocher qui dure d'éternité en éternité. Nous t'avons prié dans ton précieux nom, Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On vous rappelle qu'on va être là demain matin, c'est journée de jeûne et de prière le vendredi. Donc pour ceux qui le peuvent, ceux qui le veulent, on vous invite à être dans la prière et dans le jeûne, mais vous n'êtes pas obligés. simplement si vous le pouvez et si vous le voulez. Nonobstant cela, on aura deux rencontres demain, donc demain matin à 8h30 pour notre temps de bénédiction matinale. Ce sera un temps de prière, puisqu'on est journée de jeûne et de prière. Et rencontre demain soir lors de notre soirée d'intercession à 19h. Donc deux rendez-vous demain, le matin à 8h30 et le soir à 19h. De surcroît à cela, les inscriptions pour l'assemblée de dimanche afin d'assister au culte en présentiel ont cours jusqu'à demain midi. Si vous n'avez pas reçu d'appel jusqu'à présent, si vous n'avez pas reçu un courriel, si vous n'avez pas reçu un texto de la part de l'Église, c'est donc que nous n'avons pas reçu votre demande d'inscription avant hier midi. Donc, toutes les inscriptions qui nous sont parvenues jusqu'à midi hier, par la suite, on vous a contacté. Donc, si vous nous avez contacté après cela, les confirmations vont avoir lieu demain. Si vous nous avez contacté avant midi mercredi, donc hier, et que vous n'avez pas entendu parler de nous, on vous demande simplement de réappeler, d'appeler de nouveau ou d'écrire de nouveau pour votre place, même si vous nous envoyez 4 courriels et que vous laissez 5 messages sur la boîte vocale, il n'y a pas de trouble. Assurez-vous tout simplement de nous laisser les informations et qu'on puisse vous appeler demain en cours d'après-midi pour confirmer votre place. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Construisez bien sur le seul roc qui mérite le fondement de votre existence et qui est approprié pour le fondement de votre existence, la parole de Dieu. D'ici là, d'ici demain, que Dieu vous bénisse et on se retrouve donc demain matin. Au revoir tout le monde.